Et voici la dernière partie de la grande table, Caroline Brouet.
Il faut bien démarrer par quelque chose et redonner la voix au peuple, disait votre invité il y a une minute, Antoine Mercier. Peut-être notre invité de cette dernière partie dira la même chose, mais pour le continent qui l'intéresse, qui l'occupe et dont il vient, l'Afrique. L'Afrique, continent de l'espoir, c'est ce que nous allons voir avec lui. Bonjour, Felwyn Sarr.
Bonjour.
Et bienvenue. Vous êtes écrivain, universitaire, aussi musicien et libraire, d'après ce que j'ai vu. Vous venez du Sénégal, puisque vous enseignez à Saint-Louis du Sénégal. Vous êtes agrégé en économie, vous enseignez à l'université Gaston Berger. Et vous êtes avec Boubacar Boris Diop, Souleymane Bachir Diagne ou encore Achille Mbembe, qui sont parmi vos amis, l'un des écrivains et l'un des intellectuels aujourd'hui les plus importants d'Afrique. Vous publiez Afrotopia aux éditions Philippe Ray, et c'est de ce livre et de l'espoir qu'il donne, en tous les cas vous espérez sans doute donner à ce peuple du continent africain que nous allons discuter aujourd'hui, en compagnie également de Jean-Joseph Boileau que nous avons invité à lire votre ouvrage, qui est notre lecteur aujourd'hui avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Jean-Joseph Boileau est économiste, lui aussi, il est l'auteur de Chine d'Afrique, paru chez Odile Jacob en 2013, et plus récemment de L'Afrique pour les nuls, publié chez First en octobre dernier, peut-être un livre que vous offrirez à notre invité pour voir si...
Les deux.
Il n'étant pas nul, si ça s'adresse quand même à des nuls qui seraient intéressés par la question de façon intelligente, disons. Vos amis parlent de vous, Felwyn Sarr, comme d'un libre penseur. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
En fait, je pense que peut-être ce qu'ils veulent dire, c'est que j'essaye d'articuler une réflexion qui m'est propre, qui ne s'enferme pas dans des cloisons disciplinaires et qui peut-être prend sur elle le parier de risquer, de franchir des fois les frontières d'une pensée convenue établie. Il y a un vrai souci de réfléchir de manière autonome et de motoriser toutes les libertés dans cet exercice-là.
À commencer sans doute par changer le regard sur l'Afrique et changer, peut-être inciter aussi les Africains à changer le regard sur eux-mêmes, puisque vous dites d'emblée qu'il faudrait arriver à s'émanciper de deux paroles qui sont produites souvent sur l'Afrique par d'autres, la vulgate afro-pessimiste, je vous cite, d'une part, et d'autre part, la nouvelle rhétorique de l'euphorie et de l'optimisme. Tracer une troisième voie.
Oui, parce que dans ces deux vulgates-là, on est toujours dans le registre, je dirais, de l'émotionnel et probablement peut-être dans le registre, je dirais, de la déclaration et de la proclamation de foi. Alors que probablement, je pense qu'il conviendrait de porter un regard lucide, critique sur une réalité, un réel en train de se décliner et réfléchir à des perspectives dans le temps présent et pour le temps à venir en regardant, la réalité en train de se faire, et puis en ouvrant des voies vers un ailleurs que nous appelons de nos voeux.
Un ailleurs qui ressemblerait à quoi, Felwyn Sarr?
Je pense que le continent a en lui, il recèle d'énormes potentialités, économiques bien sûr, mais humaines,
démographiques,
culturelles, spirituelles. Et probablement le vrai discours, c'est un discours sur le type d'individu, de société et de civilisation que nous voulons. Nous sommes dans un monde qui s'interroge sur les buts et les finalités, qui s'interroge sur son rapport à l'économique, à l'environnement, à l'écologie, sur la place de l'homme, sur le sens des civilisations qu'il met en œuvre. Et probablement, je pense que dans cette interrogation-là, le continent a des choses à dire du fait d'une vieille histoire, longue et complexe, une histoire qui lui a fait traverser, je dirais, des bases et des sommets, pour parler comme René Char. Et à partir de cette histoire-là, je pense qu'on peut proposer un équilibre différent entre le culturel, l'économique, le spirituel et l'écologique.
On va revenir d'ailleurs sur cette interaction, cette articulation que vous proposez, Felwyn Sarr, entre l'économique et le culturel. Mais juste un mot d'abord, je suis frappée moi souvent par, quand on fait des émissions avec des invités qui nous viennent du continent africain, d'entendre eux-mêmes, donc vous en l'occurrence aujourd'hui, parler de l'Afrique. On ne viendrait pas à l'idée, d'ailleurs, c'est peut-être dommage d'ailleurs, parce qu'on essaye de le faire, de parler de l'Europe. On a beaucoup de mal à le faire. Mais l'Afrique, c'est un continent extrêmement vaste, extrêmement diversifié. Et donc, comment est-ce possible de parler de l'Afrique ou d'emmener le continent africain, avec ses richesses, avec ses faiblesses, avec tout ça, d'un même corps?
En fait, je pense que les deux ne sont pas antinomiques. Dans le texte, je dis donc l'Afrique est diverse et plurielle. Elle du Cap de Bonne-Espérance à Alger, il y a une diversité de géographie, de culture, de temporalité et d'historicité. Mais l'Afrique est un projet. Je veux dire, l'Afrique est un concept. Donc déjà, je pense qu'il y a une unité géographique, mais il y a probablement une unité de projet et de destin. Un continent qui veut retrouver sa lumière propre, sa puissance propre. Et probablement, c'est ce concept et ce projet d'Afrique qui se résume sous le vocable Afrique. On est bien conscient de la diversité. Mais on peut être dans une forme d'unitas multiplex, de quelque chose de divers, de multiple dans un projet. Et probablement, il y a aussi dans des espaces de l'unité culturelle, les peuples, bien que divers, se pensent appartenir à une forme de catégorie. Lorsqu'on projette des clichés sur l'Afrique, on ne dit pas les Afriques, on les projette sur le continent. Je veux dire, lorsqu'il y a des dynamiques économiques qui sont au détriment du continent, elles sont au détriment du continent, pris comme un tout. Donc, je pense que lorsqu'il y a un projet d'émancipation, il peut être aussi un projet du continent, tout en étant bien clairvoyant sur la diversité et sur la multiplicité, voilà, donc des historicités.
Antoine.
J'aurais insisté sur l'ambition finalement de votre livre, hein, parce que reprenons le titre, Afrotopia, c'est donc un mot valise Afrique plus utopie. Donc
fait.
On est vraiment dans une démarche tout à fait nouvelle qui devrait apporter quelque chose au monde. L'Afrotopia, c'est une utopie active, vous écrivez, qui se dresse pour tâche de débusquer dans le réel africain les vastes espaces du possible et de les féconder. Il y a donc dans ce que vous appelez le réel africain, des espaces à féconder. Est-ce que vous pouvez peut-être être un peu plus concret, donner juste un exemple peut-être de ce dont vous parlez là, pour qu'on comprenne bien votre démarche et d'où elle vient surtout.
Felwinsar.
Je donne un exemple simple. Je prends le système économique. On a des économies dites dualistes, au sein desquelles il y a une coexistence d'un secteur dit formel et informel. Tous les indicateurs statistiques se fondent sur les secteurs formels, le PIB, ainsi de suite. Et pourtant, on sait que l'essentiel de la production et de la vie économique est dans un secteur dit informel.
Vous voulez dire la vie des gens par rapport aux statistiques ?
Oui, donc par rapport aux statistiques, où il y a une culture économique, un agir économique de la production, des modes de circulation des biens et des services qui ne sont pas comptabilisés dans les statistiques nationales. Et ces modes de circulation obéissent à des logiques, à des savoir-faire, à des formes de circularité qui sont absolument différentes de l'économie dominante. Alors, au lieu de nous évertuer à vouloir toujours formaliser, parce que c'est ça le grand défi, pourquoi ne penserions-nous pas de manière théorique quelles sont les dynamiques de ce système qui existe, qui émerge, qui permet au continent de vivre, et pourquoi ne pas les démultiplier et les rendre beaucoup plus efficients. Donc là, il y a des espaces du réel à féconder, à condition que nous sachions déplacer le regard, que nous cessions toujours de convoquer le continent au rendez-vous de concepts, d'injonctions, sans regarder et examiner ces dynamiques profondes. Qu'est-ce qu'elle dit d'elle-même? Quel est son type d'agir économique? Et comment les individus font face à leur histoire dans la réalité? Donc il y a une sorte de, je dirais, on veut faire rentrer une histoire dans des moules qui sont déjà préformés et qui sont issus d'autres formes de sollicité. Et ça nous empêche de regarder le continent tel qu'il se dit à nous, tel qu'il s'offre à nous, puisque nos lunettes conceptuelles sont étroites. Et il y a énormément dans tous les domaines des espaces du réel qui sont là flottants, qui existent, puisqu'ils sont innommés, non catégorisés, non pensés. Leur fécondité, on passe du tout à côté de leur fécondité, puisqu'on s'évertue à vouloir que...
Voilà, ça rentre dans des cases et des chiffres.
Voilà, dans des cases et des chiffres.
Jean-Joseph Boileau.
Oh, écoutez, je ne vais pas me désolidariser d'un collègue. D'abord, j'aimerais dire que j'ai donné coup de fil à Dakar, j'ai beaucoup d'amis, et que Felwin est connu comme un très bon professeur. Et je trouve que c'est très important. Et que, notamment, il a cette capacité d'enseigner l'économie néoclassique, qu'il dénonce par ailleurs, moi aussi, donc ça va, on a un point commun. Mais c'est important d'être un pédagogue. C'est très important. Et il fait bien son métier. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas d'accord avec l'économie néoclassique qu'on ne doit pas savoir l'enseigner proprement. Je suis en empathie parce que, évidemment, dans Chine d'Afrique, c'était la clé de voûte du système, c'est de dire que le 21e siècle est fait de l'arrivée de grands continents qui ont leur particularité, leur spécificité, qu'on ne peut pas réintégrer à l'intérieur d'un moule qui serait celui, justement, de la vision occidentale des choses. Vous savez très bien que j'ai beaucoup d'empathie avec nos amis chinois ou nos amis indiens et j'ai découvert la même chose. C'est ça qui m'a amené d'ailleurs à l'Afrique. Troisièmement, j'aimerais insister sur l'écriture. C'est très important un livre. Un livre, c'est d'abord une écriture. Et il y a une écriture merveilleuse. Et c'est extraordinaire parce que la réputation de l'Afrique, c'est la tradition orale. Vous savez, ils n'auraient pas eu de tradition écrite. Oui, mais enfin, ils sont en train d'inventer. C'est pas du français qu'il écrit au sens des Français gaulois. C'est un français, c'est une langue nouvelle qui est, et mon co-auteur de l'Afrique pour les nuls, Raman Idrissa, quand il m'envoyait ses chapitres, je peux vous dire que c'était un délice pour moi de lire cela. J'avais l'impression, et je crois que c'est une nouvelle langue. L'Afrique est en train, alors c'est en anglais, mais ça peut être aussi en français, d'inventer des langues du 21e siècle qui reprennent certaines formes des langues d'avant, mais pour penser le nouveau. Et enfin, j'aimerais dire qu'il y a dans ce livre une grande sagesse. Et la notion de sagesse, le concept de sagesse, a disparu, bien évidemment. Alors de l'Occident, on va en revenir, parce que je pense qu'il ne faut pas enfermer l'Occident ou les Occidentaux dans leur propre monde. Mais il y a une très très grande sagesse que l'on saisit dès la première page jusqu'à la fin, c'est-à-dire cette capacité en Afrique de ne pas surréagir à des événements, même s'il y a eu dans l'histoire des surréactions, mais en général justement de faire appel à cette capacité de compréhension, d'élaboration collective. Parce que ce que nous décrit Felwinsar, c'est pas le résultat seulement dans son propre cheminement, c'est le résultat de discussions avec les uns et les autres. Vous en faisiez référence à ces intellectuels africains aujourd'hui qui essaient de penser l'Afrique de demain. C'est le résultat de cette discussion. Et il n'y a de sagesse que lorsqu'il y a partage sur des questions. Enfin, dernière chose, sur le fond. Je ne vais pas là parler à la place des Africains, mais moi je l'ai lu comme un Européen. Et je trouve que l'avantage de ce livre, c'est qu'il interroge les Européens sur le 21e siècle. Vous savez, on parle de la crise économique depuis les années 73-74. Peut-être qu'il faudrait se poser maintenant la question. Est-ce que c'est vraiment un problème économique? Lorsque vous avez 50% de la population potentiellement active en France, qui de facto n'a plus d'emploi, lorsque vous avez cette réforme du droit du travail qui essaye de trouver une solution et qui va mettre sur le carreau autant de gens, peut-être que le problème n'est plus du tout un problème économique. Et je trouve qu'il y a pour nous, Européens, dans la lecture d'un livre comme ça, qui donne l'impression parfois d'attaquer les Européens, les Occidentaux, il y a en réalité une leçon qu'il faut garder à l'esprit, c'est que le 21e siècle, non seulement sera peut-être le siècle de l'Afrique,
il sera africain ou ne sera pas.
Mais,
c'est ça.
Mais il sera le nôtre. Et que les questions, les contradictions qui sont exposées dans ce livre, je pense, sont exactement les mêmes. Il n'y a pas de sens dans la croissance économique. Donc on revient à Albert Hirschman, c'est le grand économiste que vous connaissez, qui définissait l'économie comme une science politique et morale. Et je retrouve, je suis très content de retrouver, il y a longtemps que je n'avais pas lu ça, cette approche des questions économiques, non pas sur le plan statistique, des modèles magres, c'est utile, mais si vous voulez, cette technique ne répond pas à la question économique fondamentale qui est le sens.
Et vous avez une question quand même, une objection?
Oh, j'en ai plein. Alors, d'abord, je voulais lui demander, est-ce que ce livre n'est quand même pas essentiellement écrit par quelqu'un qui vient de l'Afrique francophone? Parce que quand je suis dans l'Afrique anglophone, je ne retrouve pas ces questionnements. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais voilà, je voulais lui poser cette question.
Première question,
Felwinsar. Oui. Je pense que oui. Je pense que la perspective d'un Africain francophone est différente. Probablement, ils ont fait plus de chemin que nous dans ce que j'appellerais la décolonisation intellectuelle et mentale. Et probablement, ils sont à des niveaux de questionnement autres. Nous sommes encore liés à des vieux modèles, à une vieille tradition. Et nous empêtrons encore dans ces problématiques-là. Donc je pense que, de ce point de vue-là, sur la liberté intellectuelle, ils sont en avance sur l'Afrique francophone. Les gens qui vont au Nigeria, au Ghana vous le disent, quoi. Un certain nombre de problématiques, ils ne les ont plus. Ils ont probablement mieux coupé le cordon ombilical et ils sont probablement plus avancés dans des sentiers qu'ils ont tracés eux-mêmes. Donc oui, je pense que je suis situé géographiquement et je parle d'un lieu. Et ce lieu-là a une influence sur ce que je dis.
France Culture, la grande table, Caroline Brouet.
L'Afrique est-elle le continent de l'espoir? Question que nous posons à notre invité, l'écrivain et universitaire Felwinsar, qui publie Afrotopia aux éditions Philippe Ray. Autour de la table, Antoine Mercier et l'économiste Jean-Joseph Boileau, qui connaît maintenant aussi bien l'Afrique qu'il connaissait la Chine et l'Inde, tel qu'on l'avait connu Jean-Joseph Boileau. Vous parlez d'une révolution radicale, Felwinsar, dans votre livre. Une révolution qui serait à la fois individuelle et donc collective, puisque puisque vous vous adressez, on l'a bien entendu, à l'ensemble de votre pays, le Sénégal, mais aussi du continent et peut-être au-delà, puisque c'est un livre qui parle également aux Européens que nous sommes. Cette révolution radicale, vous l'aviez commencée dans un livre précédent qui s'appelait « Dahij ». Voilà, pas besoin de développer. Voilà. Comment opérer cette révolution radicale qui est une rupture de pensée? Par quoi commencer? Puisque vous dites que cela implique aussi bien les aspects politiques, économiques, culturels que spirituels. Par quoi commencer?
Je pense que déjà, peut-être probablement là, c'est de se dire tout simplement qu'un groupe humain, une société, un groupe d'individus qui ont une histoire, qui partagent un vivre ensemble et un projet, peuvent définir les finalités d'une vie sociale, ce qui est pour eux une vie bonne. Après tout, quoi, chaque individu a ses propres buts et ses finalités. Un groupe qui se reconnaît une identité culturelle, langue, culture, peut dire dans mon projet de vivre ensemble, voici les valeurs que je mets en avant. Et cette définition de la vie bonne, elle doit pouvoir être libre et ouverte. Elle doit pouvoir emprunter à l'histoire, à la culture, aux diverses influences, mais on ne peut pas donc l'enfermer dans des téléologies qui sont déjà prêtes pour emploi. La vie bonne, c'est pas forcément, le développement économique tel qu'on l'entend, c'est pas forcément la croissance ininterrompue, c'est pas forcément donc reprendre l'initiative historique dans la définition de ce que l'on estime fondamental et dans les projets de société que l'on met. Mais ça, c'est une révolution d'abord intellectuelle. Donc il faut que les cadres mentaux, les intellectuels, soient beaucoup plus ouverts et qu'ils s'autorisent à repenser, à réarticuler, à réinterroger et puis à relire les grandes téléologies et les grands récits qui nous sont proposés.
Justement, là-dessus, je voudrais vous citer, parce que votre livre est aussi bien écrit, je trouve en tout cas qu'il dit les choses d'une manière tout à fait particulière. « L'Afrique n'a personne à rattraper. Elle ne doit plus courir les sentiers qu'on lui indique, mais marcher prestement sur le chemin qu'elle se sera choisie. Son statut de fille aînée de l'humanité requiert d'elle de s'extraire de la concurrence, de la compétition, de cet âge infantile où les nations se toisent pour savoir à qui a le plus accumulé de richesses, de gadgets technologiques, de sensations fortes, de capacités, de jouissance, des biens et des plaisirs de ce monde. Et peu importe ici si cette course effrénée et irresponsable met en danger les conditions sociales et naturelles de la vie humaine. L'Afrique n'a personne à rattraper. » C'est donc vraiment un changement de paradigme complet que vous proposez, enfin en tout cas qui semble émerger de l'Afrique et qui pourrait aussi nous intéresser à nous, les Occidentaux. Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, j'ai d'abord la faiblesse de penser que lorsque l'on pense l'Afrique, on pense aussi le monde. Et que lorsqu'on pense la Chine ou l'Inde, on pense aussi le monde. Le développement, entre guillemets, de l'Afrique a souvent été conçu ou pensé sous le mode du rattrapage des pays du Nord, des pays industrialisée, donc elle devait faire aussi bien qu'eux, avoir les mêmes indicateurs. Et puis, le chemin était tracé, donc elle était en retard, il fallait qu'elle les rattrape. Je dis non, elle doit être à la hauteur de ses potentialités. Et elle doit virtuellement être en mesure de faire éclore sa part la plus lumineuse. Donc, on n'est plus dans un régime de la comparaison, où on vit de manière sempiternelle les affres de la comparaison, puisque ceux que l'on veut rattraper sont déjà en mouvement, ils sont sur un chemin, ils ont balisé eux-mêmes les critères et les indicateurs sur lesquels on doit les rattraper. Ça n'a pas de sens fondamentalement. Et fondamentalement, on est dans un rapport de pure extériorité. Je veux dire, le regard est tourné vers l'extérieur. Ce qu'elle a à faire, c'est de marcher sur ses deux jambes et d'actualiser pleinement ce qui est en elle. Et si, même si on reprend l'étymologie du terme développer, c'est déployer, dérouler quelque chose qui est en potentialité en soi. Ce n'est pas revêtir des cadres institutionnels, sociétaux, issus d'une autre histoire culturelle. C'est amener à pleine maturité ce qui est en soi. Et quand on a ce regard, qu'on le retourne vers soi et qu'on se dit « je redeviens mon propre épicentre et je veux redevenir ma propre lumière », bien sûr, on a la liberté d'emprunter ce qui nous intéresse chez autrui, parce que c'est un fait d'humanité. On a la liberté de s'inspirer d'eux. Mais fondamentalement, ce que l'on fait, c'est se dire comment je fais pour grandir et arriver à ma propre maturité. Et pour cela, il faut réussir à s'extraire des injonctions centrifuges.
Donc c'est d'abord une pensée individuelle. C'est chaque individu qui doit se penser dans une autonomie et un temps propre.
Et collective.
Et ensuite, de chaque individu débouchera le temps collectif. Où ça va ensemble pour vous?
C'est extrêmement difficile. Je pense que les individus peuvent avoir une démarche individuelle d'autonomie, de temps propre. Mais je pense que les groupes aussi doivent l'avoir et qu'il faut, qu'il serait souhaitable que ceux qui conçoivent la pensée du groupe, ce qui indique les chemins, les sentiers, et aussi cette attitude qui consiste à dire, voilà, que ça les guide et qui consiste à dire, un groupe, ou bien, voilà, un continent, ou une historicité peut s'extraire des injonctions du temps et de l'époque et faire un retour sur soi pour essayer de grandir sur la base de son propre suc et de sa propre géographie.
Jean-Joseph Boileau.
Oui, peut-être une question, parce que le titre, évidemment, c'est utopie. On est d'accord. Essayons de revenir un peu à la réalité de terrain et de voir comment le modèle que vous développez peut s'appliquer. Je vais prendre un exemple qui est justement pas dans l'Afrique francophone, qui est dans l'Afrique anglophone. Le conflit actuel, Rwanda et Burundi. On peut penser que là, on a affaire à quelqu'un qui a très peu justement d'aliénation mentale. Paul Kagame est quelqu'un d'impressionnant et qui pense par lui-même, qui est assez proche des traditions politiques de l'Afrique. Qu'est-ce que vous pensez de la gestion actuelle par Kagame du conflit au Burundi? Et est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a une certaine vision, alors utopiste au sens négatif du terme, de cette démarche que vous avez de croire que tout ce qu'il y avait avant en Afrique, finalement, c'est pas si mal. Alors, il y a l'Ubuntu, tous les concepts que vous citez, mais jamais le mot conflit n'est au milieu. Or, ce qu'il y a de particulier au monde occidental, c'est précisément d'avoir mis la question du conflit, la résolution des conflits au centre de sa société, notamment les économistes comme Adam Smith, etc., ont en général essayé de concevoir l'économie de marché comme une solution au conflit d'intérêts dans la société. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment, en gros, que dans ce livre, il n'y a peut-être pas le traitement suffisant de la gestion des conflits en Afrique par les Africains eux-mêmes, par leur propre tradition? Est-ce que ce n'est pas un risque, donc, d'aller vers de l'utopie sans s'attaquer aux problèmes réels?
Fall Winsor.
Non, absolument pas. Déjà, je reviens sur l'exemple du Rwanda. Peut-être sans note de bas de page où je dis le Rwanda est un exemple. Lorsqu'ils ont vécu le génocide et qu'il fallait juger des centaines de milliers d'individus, ils ont eu recours au gachacha, à des tribunaux populaires, à de la justice transitionnelle, de la justice que j'appellerais réparatrice, qui met l'accent plus sur le retissage du lien social plus que sur la sanction. Ils ont eu là une solution absolument originale. Je pense que le tribunal pénal international du Rwanda a jugé 69 individus sur des centaines de millions et les gachachas ont permis, en tout cas, de libérer énormément de génocidaires, de faire repartir une machine économique et d'inscrire la question de la résilience, de la justice et du pardon dans un long terme. Et voici un pays qui a aboli la peine de mort après un génocide. Ça, c'est une solution africaine. Dans les conflits en Afrique, il y a énormément de solutions issues des traditions africaines et des cultures africaines.
Parler d'Ubuntu, par exemple.
Oui, mais même l'Ubuntu, il ne faut pas en avoir une vision sociale, exclusive, non résolution de conflits. Le « nous », c'est un « nous » qui articule le « je tue nous ». Et dans les traditions africaines, la question de comment on gère les conflits, comment on les résout, il y a toute une herméneutique de la gestion du conflit qui existe. À mon avis, la question, elle n'est pas là. L'utopie. Je refuse la déconsidération du terme utopie. L'utopie ou l'atopos, c'est un ailleurs. C'est un ailleurs qui n'est pas encore là. Mais le réel déborde la réalité. Je veux dire, tout ce qui a été fait de grand, d'important, individuellement ou collectivement, l'a été fait puisque des individus ont eu une vision, une projection, ont pensé un atopos, mais surtout ont agi de manière active pour faire advenir cet atopos-là. Le futur est une modalité du temps. Il arrivera quel que soit. L'avenir se conçoit, se pense. Et on agit dans le temps présent pour le faire advenir. C'est ça l'utopie pour moi.
Y compris la gestion des conflits.
Oui, mais en fait, le problème c'est que je fais un choix, je fais une option. Énormément de textes existent quoi sur les conflits en Afrique, misérabilisme, plainte, et Jérémiade. Et je choisis de dire ok, ces crises existent. Pour moi, elles sont le signe que l'Afrique est en gésine, qu'elle est en travail, qu'elle va accoucher de quelque chose. Pour l'instant, nous sommes dans un clair-obscur et je ne sais pas de quoi est-ce qu'on va accoucher. Mais dans ce clair-obscur où il y a une pluralité des larges Nous pouvons choisir le large qui nous intéresse et nous pouvons féconder des espaces et faire advenir un temps que nous voulons, faire advenir de nos voeux, mais surtout à travers nos actes. Et c'est dans le sens-là que je parle d'utopie. Je reviens dans la vieille tradition utopique, celle qui réhabilite la vraie utopie.
Moi, je regrette encore être bien plus terre à terre que Jean-Joseph Boileau, mais encore faut-il pouvoir le faire, Felwinsa, quand, je ne sais pas, on manque d'argent, de moyens, d'éducation, qu'on n'a pas de quoi aller à l'école, ce qui est le cas d'un certain nombre d'enfants sur le continent africain, encore, soit parce que les problèmes économiques existent malgré les richesses des pays, soit parce qu'ils sont détournés, corruption des élites, soit parce qu'il y a des conflits. C'est difficile de dire changer de point de vue et mettez-vous à penser autrement pour prendre votre destin en main.
C'est pour ça que je dis dans le texte que la révolution sera intelligente. J'ai un chapitre sur l'enseignement, sur l'éducation et sur les universités. Où bien évidemment, le préalable, c'est l'éducation de base. Mais au-delà de l'éducation de base, une fois que cette éducation-là elle est assurée, une réflexion sur les contenus. Qu'est-ce que l'on transmet? Les savoirs techniques, il y a un consensus, ils permettent de mieux organiser l'espace, je dirais, social de manière optimale. Les savoirs issus des sciences humaines et sociales, ce sont des savoirs sociaux qui disent quelles sont les fines dynamiques des sociétés. Et sur ces savoirs-là, je prêche ou je prône une totale déconstruction et une reconstruction parce que pour transformer nos sociétés, il faut bien les lire et les connaître. Et pour cela, on a un travail de révolution intellectuelle et mentale à faire. Mais c'est un chantier que je dirais multitâche. Le texte s'adresse à des individualités, mais s'adresse aussi à des gens qui dirigent, qui font des programmes, qui pensent le groupe et qui doivent fixer des priorités, qui doivent mettre en œuvre des chantiers dans le but d'asseoir un vivre ensemble qui est beaucoup plus épanouissant pour les individus. Donc, bien évidemment, l'éducation est fondamentale et ça, donc j'adhère complètement à cette idée.
Juste une question sur Felwinsa. Sarr, vous parlez de l'utopie et j'avais envie de vous demander comment vous percevez la situation en Europe. On a l'impression que la notion d'utopie a un peu disparu et même celle de progrès. Alors est-ce que ça pourrait pas aussi nous servir, votre démarche, pour retrouver aussi quelque chose de nouveau dans nos sociétés?
La notion d'utopie a disparu et je pense que nous sommes dans une forme de, nous sommes dans une crise. Et je rejoins mon collègue économiste qui ne me semble pas être fondamentalement une crise économique. Je pense que la crise économique est juste l'expression d'une crise philosophique, éthique et spirituelle. Quelle finalité donnons-nous au progrès? Habermas a pensé que la modernité était un projet inachevé, qu'elle avait eu des conquêtes technologiques, mais les conquêtes éthiques et morales qui devaient équilibrer le tout et donner une finalité, nous ne les avons pas réussi, je dirais, en Europe. Et que fondamentalement, les questions économiques sont des questions d'abord psychologiques, sont des questions sociétales. Comment faire actuellement pour partager une prospérité sans croissance? Ça pose la question de l'éthique, de la redistribution, du modèle de société. Ça pose des questions de justice sociale, de progrès social. Et comment redonner du souffle à la notion de progrès, vu le prix que nous avons pu payer à cette notion-là, vu le prix que les Lumières a payé, mais vu le prix que nous payons. Et je pense qu'il y a une tâche pour les philosophes de dire, nous remettons du cœur à l'ouvrage et probablement de reproposer des modèles de société qui redonnent de l'élan, de l'aspiration à un vivre ensemble et à la manière dont on l'articule au bénéfice du plus grand nombre. Et je pense que c'est là-bas la clé. L'économie est un ordre des moyens, c'est pas un ordre des finalités. Il faut que les ordres qui pensent les finalités reprennent le travail et une fois qu'on a refixé les finalités du groupe, on utilise les ordres techniques pour atteindre les finalités du groupe.
Jean-Joseph Boileau.
Oui, j'avais une question sur la question linguistique qui, je pense, est absolument essentielle. Si la Chine est aussi bien assise dans sa chaise, même si on peut trouver que le régime est... Peu importe, c'est parce qu'elle a sa langue, son écriture, qu'elle pense par elle-même et elle ne pense pas que son modèle du 21e siècle sera celui de l'Occident. L'Inde, même chose. Ça me frappe. Dans le cas de l'Afrique, on sait que la clé de l'éducation, ça va être l'enseignement dans sa propre langue. Ça, on sait que au niveau de, si vous voulez, des classes populaires, c'est la langue maternelle qui est l'élément clé pour progresser dans l'éducation et que si on commence à développer l'éducation en français ou en anglais dès le primaire, on va bloquer le processus mental. La difficulté pour l'Afrique, c'est que vous écrivez en français, Soyinka écrit en anglais, vous citez, et à très juste titre, l'ensemble des romans des grands écrivains actuels qui agitent un peu le débat. Mais je suis frappé d'une chose, c'est qu'ils écrivent toujours dans des langues étrangère, l'anglais ou le français. Seuls les musiciens et les chanteurs, ça me frappe, eux chantent dans les langues, entre guillemets, locales. Alors, il y a plus de 1000 langues, on dit, en Afrique. Que dans le... Enfin, pour les nuls, on a même mis un tableau, l'éditeur était agacé parce qu'il est trop long. Il y a un complexe linguistique. Alors, comment vous voyez cette solution linguistique, on va dire, de l'Afrique, avec ces langues donc d'éducation de masse, hein, et puis ensuite le fait que dans le continent, bah, vous voulez justement discuter entre vous. Donc il faut bien trouver à ce moment-là, même le Swahili qui, dans l'Afrique de l'Est, est en train un peu de s'imposer, n'a pas beaucoup, par exemple, de romans écrits en Swahili. La plupart des gens de l'Afrique de l'Est continuent d'écrire plutôt, là encore, en anglais. Donc ça serait quoi la solution linguistique? Là, on est peut-être dans l'utopie, mais... Allons-y. L'utopie linguistique de l'Afrique, c'est quoi?
Felwinsar.
Dans le texte, je parle de Ngugi wa Thiong'o et de Wiredo. Ces deux philosophes sont intéressants. Ngugi a écrit un texte qui s'appelle Decolonizing Mind, décoloniser l'esprit, dans lequel il prône un retour aux langues nationales. Et d'ailleurs, lui-même, il a opéré une rupture à un moment donné, né dans son écriture. Il écrivait en anglais, il s'est mis à écrire en Kikuyu, donc une langue au Kenya. Je cite aussi Boubacar Boris Diop qui fait un travail dans les langues nationales. Et dans ce chapitre-là, même un auteur comme Valentin Moudimbe préconise le retour à la langue nationale, aux langues nationales pour enseigner. Il y a des expériences au Sénégal et au Nigeria, des classes 8 pilotes. Lorsque les jeunes écoliers commencent l'enseignement dans leur langue, ils sont non seulement plus performants dans toutes les autres disciplines et matières, y compris en français et en anglais. Ouais. Donc c'est des expériences qui ont été faites au Nigeria, au Sénégal. Là aussi, les académiques, les gens qui font de la didactique et de la pédagogie ont prouvé que ça fonctionne et que c'est absolument fondamental. Les politiques doivent sauter le pas. Je veux dire, il y a des travaux d'universitaires, il y a énormément de travaux.
Oui, mais comment on fait avec des centaines de langues pour que le continent...
Non, mais on a des espaces. En Afrique de l'Ouest, on peut choisir la langue Peul, il y a 30 millions de Peul. Ouais. En Afrique centrale, on peut penser aux langues dérivées du Swahili. On a des grands espaces géographiques avec des langues dominantes qui peuvent servir de langues relais et qui peuvent être des langues sur lesquelles, au Sénégal, le Wolof, évidemment, doit être la langue véhiculaire. Elle peut parler par...
Oui, 90... mais mes amis Peul ne sont pas contents. Hein.
Oui, mais elle est parlée par 98% de Sénégalais. Donc, il y a des choix stratégiques à faire. Mais là aussi, le politique doit prendre le relais.
Juste un petit mot sur les valeurs qu'il faut réhabiliter selon vous. Alors vous citez la dignité, le vivre ensemble, l'hospitalité, soit, mais aussi pudeur, scrupule, sens de l'honneur. Ça signifie quoi précisément, quelques mots?
C'est des valeurs en principe très ancrées en Sénégambie, dans l'Afrique de l'Ouest, dans l'Empire du Ghana et du Mali. La pudeur est liée au sens du vivre ensemble. On ne dit pas tout ce qui détresse, tout ce qui... dans tout ce qui délie. Et le langage est aussi un outil pour raffermir.
Voilà. C'est ça la langue de l'Afrique, peut-être, qu'on cherchait.
À moins que ce soit la langue que nous allons entendre, puisque vous avez choisi une chanson, c'est la tradition de cette émission. Felwinsar, à la fin de l'émission, nous proposons à notre invité de choisir une musique. Elle s'intitule Let It Go, mais elle n'est pas en anglais. Tena se defi panga demba bayi runga faz boy nem do cho do son ti dinga dem do cho kana nga dem mba kana niza tena se defi panga dem zen bayi smirati kunga kobatan mundere numuleva umbursa do son ti dinga dem zen sutuku smirati. Tous les chanteurs disaient Jean-Joseph Wolo chante dans leur langue, sauf quand ils chantent avec des featuring, parce que là c'était en Wolof. Oasis Diop, vous avez choisi cette chanson.
Oui, cette chanson est très belle puisqu'elle sangle sa poésie dans la langue Wolof. Il interroge, et puis il y a deux thèmes qui me plaisent dans le texte. L'un des thèmes est un thème que j'appellerais bouddhiste. Il y a une méditation sur laisser faire, laisser aller, donc laisser couler, les choses sont impermanentes. Mais en Wolof, il pose la question de savoir, il dit si les affligés avaient des jours ou à quoi se raccrocher. Donc il pose la question de la bonne fortune. Il démontre que on ne réussit pas simplement du fait du travail et de la volonté. Il y a quelque chose d'autre qui s'installe. Et C'est quoi ce quelque chose d'autre qui fait que voilà?
C'est sur quoi vous avez voilà, tenté de réfléchir. Voilà. En tout cas, Fel Winsar, dans votre essai Afrotopia, édité chez Philippe Rey. Merci beaucoup d'être venu nous
c'est
en dire quelques mots aujourd'hui à la Grande Table. Merci beaucoup Jean-Joseph Boileau.
Merci à vous, j'ai découvert un très beau livre.
Très merci beau livre. Pour lui également. Et merci à toute l'équipe, Raphaël Bourgois, Clémence Marie, Jeanne Aléos, Henri Leblanc, Antoine Sims. À la réalisation aujourd'hui, c'était Vincent Abouchard. À la prise de son, Nicolas Delmas.